Alors, certaines histoires sont fictives, mais pas celle-ci. Nous ne connaissons pas la date précise, mais nous nous situons très certainement au milieu des années 30. Je ne veux pas dire par là les années 1930, mais les années 30 tout court, après Jésus-Christ. Un homme d'un certain standing vient de se rendre à Jérusalem et effectue maintenant son trajet de retour. Sa destination ultime se trouve en Éthiopie, ou plutôt en termes modernes, au Soudan. Cet homme est haut fonctionnaire de son métier, le ministre des Finances de son pays. Pour ce trajet de retour, il se trouve dans son char. Son chauffeur conduit, lui, est en train de lire. Il est en train de lire la Bible. On pourrait dire la portion de la Bible la plus importante qui existait à l'époque. Et le texte en question l'intrigue. Il ne comprend pas tout ce qu'il lit. Or, il se trouve qu'un certain Philippe arrive en scène. Philippe lui explique le sens de cette portion de la Bible et dès lors, sa vie est transformée à tout jamais. Et sa mort est transformée également à tout jamais. 2000 ans plus tard, à Bruxelles, je ne sais pas combien d'entre vous travaillent pour le ministère des Finances à Bruxelles, mais je vous demande d'imaginer que votre chauffeur vient de s'arrêter. Vous n'êtes pas loin du quartier européen, mais les grands chefs d'État européens sont en ville et vous savez bien que, voilà, embouteillage et il va falloir attendre quand même quelques minutes avant de pouvoir avancer. Et vous souhaitez rentabiliser le temps. Vous êtes sur la banquette arrière, vous sortez votre smartphone, un texte y apparaît. Il s'agit de cette même portion de la Bible que le ministre des Finances éthiopien avait lue. On pourrait dire la portion la plus importante de la première grande partie de la Bible. Voici ce que vous lisez.
Ésaïe 52, 13 à 53, verset 12. « Mon serviteur réussira. » Il grandira et gagnera en importance, il sera très haut placé. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains, il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté, ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ceux qui étaient exclus de la terre des vivants, frappés à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables.
Alors, vous êtes là, sur la banquette arrière, bien installé, et ce texte vous intrigue. Vous avez le sentiment que c'est important, mais vous avez un certain nombre de questions. Et au niveau des feux, vous remarquez un passant qui tient une Bible à la main. Vous n'avez rien à perdre. Vous descendez la vitre et vous l'interpellez. Il se révèle que ce monsieur est un enseignant de la Bible, prénommé James. Vous m'invitez à vous rejoindre sur la banquette arrière dans votre gentillesse. Et voici votre première question. Cette portion de la Bible, elle parle de qui au juste? Je vous réponds, je comprends. Je comprends exactement, c'est un personnage intriguant. Ce personnage peut sembler mystérieux et en fait, nous pourrions aisément croire qu'il y a quelque chose qui cloche. Au premier abord, on dirait presque contradictoire. En effet, si l'on considère ce personnage côté actif, on constate qu'il sera très haut placé, que devant lui des rois fermeront la bouche, que le bras de Dieu, sa puissance, c'est lui, qu'il est juste, droit, innocent, qu'il ne commet pas de violence, il n'y a même pas de tromperie dans sa bouche. Il verra la lumière, il sera satisfait, il connaîtra la victoire. Et pourtant, on considère aussi, côté passif, que là, il est aussi fragile qu'une jeune plante, là où la terre n'est pas arrosée, qu'on est horrifié par lui, qu'il a le visage défiguré, pareil à celui face auquel on détourne la tête. Il est méprisé, homme de douleur, frappé par Dieu, humilié, brisé par la souffrance, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, compté parmi les criminels. Il est mis à mort et enterré parmi les méchants. Ah, votre question est bien légitime. Le ministre des Finances éthiopien avait posé la même question que vous. De qui s'agit-il au juste? Vous m'interrompez dans mon discours parce qu'il y a quelque chose que j'ai dit qui vous fait tiquer. James, vous avez dit par rapport à tout ça que cela paraît presque contradictoire, mais c'est contradictoire, non? Je peux comprendre qu'un innocent peut être puni, ça n'est pas très juste, mais ça arrive, mais pour le reste, on ne peut pas avoir tout et son contraire. Méprisé, humilié et pourtant très haut placé. Fragile et pourtant la puissance de Dieu, brisé et pourtant victorieux. Je vous réponds, mais je comprends votre souci. Mais ça va s'éclairer. Vous allez voir que ce n'est pas contradictoire et peut-être que le meilleur angle d'attaque en quelque sorte pour comprendre cela, c'est de reconnaître que dans cette portion de la Bible, il est fait mention non seulement de ce personnage, mais encore d'un grand groupe de personnes. Beaucoup de personnes, lisons-nous à deux reprises dans le texte. Et ce groupe de personnes est grosso modo représenté dans le texte par les mots « nous »,« nos », »,« notre ». Vous voyez par exemple là où il est marqué petit « deux ». Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. cité par les jeunes, n'est-ce pas? Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et vous êtes d'accord que c'est une question qui vous intrigue également. Mais cela m'amène à vous mettre en garde, parce que du fait de considérer ce « nous », vous risquez de vous sentir mal à l'aise. Mais oui, dans un premier temps, mais oui. Ce malaise, je me lance quand même, parce que ça vaut la peine. Et je vais expliquer que là, il s'agit, oui, au moment où ça a été écrit, des Juifs. À l'époque, on les appelait les Israélites. Dieu avait mis ce peuple à part, l'avait appelé à être son serviteur. C'était censé être un peuple particulier, un peuple obéissant, un peuple soumis à sa volonté, soumis à une loi que Dieu lui avait donnée. Ce peuple allait être comblé de privilèges en cas d'obéissance à cette loi, mais maudit en cas de désobéissance. Et en l'occurrence, il s'est révélé un peuple décevant. Et voici ce que Dieu dit par rapport au peuple au tout début du livre de la Bible, d'où est tiré notre texte. Ciel, écoute, terre, prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils ont fait volte-face. À quoi bon vous frapper encore? Vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. C'est là le verdict. Un peuple rebelle, stupide, criminel, méchant, corrompu, malade, souffrant. Plus loin dans le même livre, il nous est dit que ce peuple est sourd et aveugle. Et vous m'interrompez. James, vous avez dit que ça me mettrait mal à l'aise, mais là, vous parlez d'un autre peuple. Et je vous réponds, mais là, c'est justement le problème, parce que ce même livre de la Bible précise que ça, c'est là le diagnostic qui s'applique également aux peuples issus d'autres peuples, d'autres nations. En effet, tout être humain a Dieu pour créateur, et Dieu appelle tout être humain à l'honorer, à vivre pour lui, à être son serviteur. Il a implanté dans tout être humain une conscience, ce qui fait que nous savons que souvent, nous n'agissons pas bien. Et cela ne servirait à rien de nous soustraire à cette réalité en nous comparant avec quelqu'un comme Hitler ou Marc Dutroux. Lorsque nous sommes lucides avec nous-mêmes, nous avons honte des mensonges qui ont été trouvés dans notre bouche. Nous avons honte des pensées d'amertume et de luxure. Nous avons honte de toutes nos petites tentatives d'autoglorification à peine déguisées. Qu'est-ce que vous préférez, que les uns et les autres disent du bien de vous ou dire vous-même du bien des uns et des autres? Vous n'allez pas nier que vous êtes égoïste. Vous connaissez la définition de l'égoïste. L'égoïste, c'est la personne qui ne pense pas suffisamment à moi. Il faut réfléchir. Et si vous lisiez la Bible, vous verriez que le verdict est le même pour tout le monde. Rebelle, stupide, criminel, méchant, corrompu, malade, souffrant, sourd, aveugle. Mon neveu Alex, il habite à Londres. Un beau jour, il reçoit un coup au niveau de son œil et il passe la soirée avec la main dessus. Ma sœur, donc sa mère, a vraiment du mal à lui faire enlever la main pour qu'elle puisse jeter un œil pour voir ce que ça donne. Et en effet, lorsque enfin elle arrive à voir, elle constate que c'est bien rouge et douloureux, mais pas gravissime. Et la douleur diminue petit à petit. Au moment de se coucher, ma sœur oublie d'allumer la veilleuse dans la chambre d'Alex. Et quelques heures plus tard, durant la nuit, Alex arrive dans la chambre de ma sœur et de mon beau-frère. Et donc, ma sœur entend « Maman, je pense que je suis aveugle maintenant. » Mais pour nous, c'est souvent le contraire. Nous pensons capables de voir. Nous refusons d'accepter le verdict en nous-mêmes. Nous sommes aveugles vis-à-vis de Dieu. Aveugles, sourds, rebelles. Non seulement c'est la réalité, mais encore cet état des lieux entraîne la mort et une punition terrifiante et effroyable par la suite. Je vais juste lire la toute dernière phrase de ce même livre de la Bible. Quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. En effet, leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas et ils seront pour chacun un objet d'horreur. Il n'y a personne qui voudrait connaître ce sort-là. Et là, c'était Dieu qui parlait. Mais ce livre parle également de ce personnage qui figure, entre autres, dans notre texte. Il est question d'un serviteur. Vous voyez au tout début de la portion qui nous intéresse, « Mon serviteur réussira ». Quant à lui, c'est un serviteur qui plaît à Dieu à tous égards. Il est juste, droit, innocent. Il ne commet pas de violence et il n'y a même pas de tromperie dans sa bouche. Sa vie est en tout point parfaite. Alors, c'est votre moment d'intervenir et vous insistez, mais James, il n'y a personne comme ça. Et je vous réponds, vous avez presque raison. Mais à Noël, lorsque nous ne sommes pas trop occupés à faire les courses, à regarder les émissions spéciales à la télé, à ouvrir les cadeaux, à préparer les repas, nous nous souvenons de ce que ce moment dans l'année est destiné à nous rappeler la naissance de la personne autour de laquelle notre calendrier tourne, 2014 après Jésus-Christ. Au moment de la naissance de Jésus, ses parents étaient en déplacement et il n'y a pas eu suffisamment de place pour eux dans la chambre d'hôte à Bethléem. On s'est vu rappeler à tout cela, n'est-ce pas, tout à l'heure. Et du coup, Jésus est né dans un endroit destiné à des animaux. Ce n'était pas glorieux. C'est comme si sa survie n'était pas gagnée d'avance. Comme l'affirme notre portion de la Bible, là où il est marqué numéro 2, et pour rappeler ce qui a déjà été dit par les jeunes, il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais Jésus a grandi, et les témoignages ne manquent pas. Tout au long de sa vie, il s'est conduit de façon droite. Même ses ennemis ne pouvaient pas mettre légitimement le doigt sur quoi que ce soit chez lui qui l'inculpait. Vous avez une question à ce stade, mais James, une personne comme ça n'aurait pas d'ennemis. On serait ravis de l'accueillir, on ne le mettrait pas à mort. Au contraire, je peux juste vous rappeler le caractère des êtres humains livrés à eux-mêmes. Rebelles, stupides, criminels, méchants, corrompus, malades, souffrants, sourds, aveugles. Ils l'ont bel et bien mis à mort. On était horrifiés par lui, pareil à celui face auquel on détourne la tête. Il était méprisé, homme de douleur, humilié, brisé par la souffrance, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, compté parmi les criminels, mis à mort et enterré parmi les méchants. C'est ce qui est dit dans cette portion de la Bible et c'est ce qui s'est produit dans la pratique. Vous me demandez alors, Pourquoi pas de contradiction? Parce qu'il est aussi présenté comme étant très haut placé, la puissance de Dieu, victorieux. Et je vous réponds, mais en effet, il est même affirmé qu'il verra la lumière et qu'il sera satisfait après être passé par tant de troubles. Et c'est là ce qui s'est produit. Jésus n'est pas resté mort, mais il est ressuscité d'entre les morts 2 jours après avoir été enterré. Mais lorsqu'on parle de la victoire de Jésus, on ne pense pas simplement au fait qu'il est revenu de la mort, même si là, ça c'est déjà extraordinaire. On pense aussi à tout ce qu'il a accompli par sa mort, dans sa mort. Vous voyez, sa mort était voulue par Dieu. Vous voyez numéro 10 là, l'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Et vous intervenez encore, Dieu a voulu le briser? Où est l'amour là-dedans? Dieu a voulu le briser, cet homme droit, innocent? Où est la justice là-dedans? Me demandez-vous? Eh bien, cet homme, Jésus, ce serviteur de Dieu, n'est pas moins que la puissance de Dieu, n'est pas moins que Dieu en chair et en os. Et donc, cela revient à dire que Dieu s'est brisé lui-même. Mais pourquoi, me demandez-vous? Et je vous réponds, mais c'est là justement le nœud de l'affaire. Comme ont très bien compris à la fois les jeunes et les enfants, qui dit Noël, dit aussi Pâques. Jésus est venu pour mourir. Réécoutons les phrases 4, 5, 6. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Selon ces phrases, qui est-ce qui mérite la punition? Eh bien, nous! Nous ne saurions esquiver le verdict que nous avons entendu nous concernant. Et nous venons de le lire, réentendre. Nous sommes souffrants, malades, criminels, égarés, pleins de fautes. Selon ces phrases, qui est-ce qui reçoit la punition? Eh bien, lui. C'est nous les souffrants, mais c'est lui qui porte les souffrances. C'est nous les malades, mais c'est lui qui s'est chargé de nos douleurs. C'est nous qui sommes les criminels, mais c'est lui qui a été blessé à cause de nos transgressions. C'est lui qui a été brisé à cause de nos fautes. C'est nous qui sommes les brebis égarées, suivant chacune sa propre voie. Mais Dieu a fait retomber sur lui nos fautes à toutes et à tous. Jésus s'est substitué à nous dans sa mort. De temps à autre, nous entendons parler de personnes qui sont prêtes à souffrir à la place de quelqu'un d'autre. Il y a 3 ans, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu une tuerie à Liège. Et vous vous souvenez peut-être de ce que un petit Gabriel, bébé de 17 mois a été tué dans cette fusillade. Et vous avez peut-être un vague souvenir de ce qu'a dit sa mère. Je vous rappelle ses paroles, je cite. Sa mère, Olivia, a dit ceci. J'aurais préféré mourir à la place de mon fils. Jésus a subi la peine que nous méritions, ce qui fait que la peine de l'enfer nous est enlevée. Et figurez-vous, cette peine est remplacée par la joie de notre participation à un monde parfait. À Bruxelles, nous avons reçu un jour dans nos boîtes aux lettres cette question. Vous aspirez à un monde meilleur? Mais bien sûr, tout le monde aspire à un monde meilleur, même lorsqu'il n'y a pas de raison de faire la grève. Et ce livre de la Bible parle d'un tel monde, parle d'un nouveau monde parfait qui sera instauré par Dieu. Et au final, C'est là encore le fruit de la mort de Jésus. Cela fait partie de la victoire qu'il a remportée. La phrase 5 de notre portion de la Bible parle de la paix et de la guérison apportée par la mort du serviteur. Dans le sens le plus profond et le plus total, nous connaîtrons ces circonstances de paix et de guérison dans le nouveau monde parfait. Vous n'êtes pas insensible à cette idée d'un monde parfait qui vous attire, mais vous avez une question à ce propos. C'est pour quand? Alors là, nous ne le savons pas. Il y a des personnes qui essayent de prévoir la date. Aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre 2014. Il y a 2 ans, 21 décembre 2012, c'était la fin du monde. Ça aurait dû être. C'était censé être la fin du monde d'après le calendrier des Mayas, vous vous en souvenez. Mais Jésus a précisé que cette information ne serait pas dévoilée par avance. Le tout, c'est d'être prêt. Une meilleure question que « c'est pour quand ?» serait « c'est pour qui ?» Et vous m'interrompez rapidement. Ce n'est pas pour tout le monde. Jésus n'est-il pas le substitut de tous et de tous? Eh bien, non, finalement. Au bout du compte, il n'est pas le substitut de celles et ceux qui refusent de reconnaître qu'il est très haut placé, qu'il est la puissance de Dieu, qu'il est victorieux. Il n'est pas le substitut de celles et ceux qui persistent à être horrifiés par lui, à détourner la tête face à Jésus, à le mépriser. Jette un œil à la phrase marquée 11 vers la fin. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leur faute. Par sa connaissance ou par la connaissance qu'on a de lui, du fait de le connaître, du fait de s'identifier à lui, du fait de s'attacher à lui, du fait de lui faire confiance. Les personnes qui bénéficient de la mort de Jésus sont les personnes qui ne souhaitent plus être rebelles, stupides, méchantes, corrompues, malades, souffrantes, sourdes, aveugles. Pour ces personnes-là, Jésus nous est-il dit à procurer la justice. De même qu'il y a transfert de péché entre nous et lui, il y a transfert de sa vie parfaite entre lui et nous, comme si nous étions revêtus de sa droiture, de sa justice. J'essaye d'illustrer de cela. Voici moi-même, voici Jésus. Le tissu noir représente mes péchés. Le mouchoir blanc représente la justice parfaite du Christ, la vie parfaite qu'il a menée. Et grâce à la croix, un transfert a lieu. Ça, c'est la réalité de ce qui se produit sur la croix pour les personnes qui font confiance à Jésus-Christ. Mais vous voyez là que tout cela s'applique non pas à tout le monde, mais à beaucoup de personnes. Merci de m'avoir permis de vous accompagner sur la banquette arrière. Juste une dernière chose qui est on ne peut plus importante avant que je descende. Il ne faudrait pas reporter le moment de commencer à faire partie de ce beaucoup de personnes qui bénéficient de la mort de Jésus. Le moment de commencer à reconnaître que Jésus est haut placé, victorieux, la puissance de Dieu, c'est maintenant. Le moment de vous attacher à Jésus, c'est maintenant. Le moment de cesser d'être rebelle, c'est maintenant. Le ministre des Finances éthiopien avait bien compris cela. Et vous ?